Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
أرأيت الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 13 Aban, 1400 du calendrier iranien, 4 novembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le 4 novembre, Journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale. L'Iran est déterminé à faire lever les sanctions, a déclaré le président iranien. Le 4 novembre, journée de la lutte contre l'arrogance mondiale en Iran. Et l'escalade saoudienne est une agression contre le Liban, selon le Hezbollah. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a réaffirmé que l'Iran souhaitait voir des résultats tangibles lors des prochaines négociations avec les 4+1 sur la levée des sanctions imposées au pays. Le président Raisi a précisé que l'Iran n'abandonnera pas la table des négociations, mais refusera de se plier à des velléités excessives avancées par la partie occidentale qui vont à l'encontre des intérêts nationaux de la République islamique d'Iran. Le président Raisi, qualifiant d'injuste les sanctions américaines contre la nation iranienne, a exhorté Washington à les lever. L'Iran a confirmé que les pourparlers avec les 4+1, les cinq parties restantes de l'accord nucléaire, commenceraient le 29 novembre. Les négociations visent à faire lever les sanctions que les États-Unis ont imposées ou réimposées à l'Iran après le retrait unilatéral de l'ancien président Donald Trump de l'accord historique de 2015. Le 4 novembre est une occasion annuelle pour rendre hommage en Iran aux porte-étendards de la lutte contre l'arrogance extérieure et la tyrannie intérieure, le fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini. Il y a quelques heures, des foules de personnes se sont rassemblées dans les rues dans les différentes villes du pays pour manifester leur colère face aux atrocités et hostilités américaines envers l'Iran, dont notamment au cours des 4 dernières décennies. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que le récent incident dans la mer d'Oman prouve que l'Iran est sérieux dans la sauvegarde de ses intérêts nationaux et que ses forces armées sont pleinement préparées à faire face à toute menace extérieure. le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré qu'il y avait une dizaine de jours, ses forces navales avaient déjoué une tentative des États-Unis de voler du pétrole iranien dans les eaux méridionales du pays. Le général Hossein Salami a ajouté que l'Iran n'a jamais cherché la guerre, mais qu'il sait certainement se défendre. Il a rappelé les antécédents catastrophiques des États-Unis et les guerres et les conflits qu'ils ont déclenchés partout dans le monde, avant d'appeler les États de la région à ne pas s'attendre à ce que les puissances étrangères apportent la paix en Asie occidentale. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a déclaré que l'approche récente de l'Arabie saoudite envers le Liban visait à détourner l'attention de l'opinion publique de son échec dans la guerre au Yémen. Le cheikh Naïm Rassem a déclaré que le mouvement de la résistance libanaise, Hezbollah, ne permettra pas à l'Arabie saoudite de s'ingérer dans les affaires politiques intérieures du Liban, y compris la formation du gouvernement. Il a également déclaré que le royaume saoudien avait montré, et cela par de nombreux gestes interventionnistes, qu'il est contre la présence du Hezbollah au sein du gouvernement libanais. Il a déclaré « Les dirigeants saoudiens travaillent dans le mauvais sens car personne ne peut tordre le bras du Hezbollah et du peuple libanais. Nous n'acceptons pas l'ingérence de l'Arabie saoudite dans les affaires du gouvernement libanais », a-t-il déclaré. Le numéro 2 du Hezbollah a souligné que ces tentatives visent à embraser le feu de la discorde au Liban et il a exhorté Riyad à s'excuser auprès de Beyrouth. Les forces israéliennes viennent de démolir ce jeudi une mosquée près de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Selon les sources locales, les autorités d'occupation israéliennes ont démoli jeudi matin une mosquée dans la ville de Naplouse, au sud de la Cisjordanie occupée. Il s'agit de la mosquée Abu Safi, située dans la localité de Douma, à l'est de la ville. Selon les sources, les forces israéliennes ont escorté un bulldozer dans la ville et détruit la mosquée fréquentée par des fidèles depuis 2 ans. Israël a une longue histoire de démolition des bâtiments palestiniens. Ces exactions répressives systématiques suscitent toujours beaucoup de critiques internationales, mais l'inaction internationale les encourage. Il y a un mois, les autorités israéliennes ont détruit toutes les structures du village palestinien d'Aragib et ont fait déplacer ses habitants. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies montre que la confiscation par Israël de maisons palestiniennes à Qods occupée et en Cisjordanie a augmenté de 21% en 2021 par rapport à l'année dernière. Et enfin, la Chine a réagi à la visite d'une délégation européenne à Taïwan. Pékin a exhorté l'Europe à corriger ses erreurs et à s'abstenir d'envoyer des mauvais signaux aux séparatistes actifs dans l'île autonome chinoise afin de ne pas nuire gravement aux relations sino-européennes. Une délégation de députés européens menée par un eurodéputé français s'est déplacée à Taïwan. Il s'agit de la première visite du genre. Lors d'une rencontre avec la présidente taïwanaise, le chef de la délégation lui a assuré du soutien européen. « Nous sommes venus ici avec un message très simple et très clair. Vous n'êtes pas seul », a-t-il déclaré. La Chine considère Taïwan comme son propre territoire, mais l'île veut l'indépendance et se dit prête à se défendre en cas de conflit armé. Dans le calendrier iranien, le 13 Aban, 4 novembre, est la journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale. La date renvoie en fait à la prise de l'ambassade des États-Unis à Téhéran le 4 novembre 1979 par quelques 400 jeunes étudiants révolutionnaires, moins d'un an après la victoire de la révolution islamique du peuple iranien en février 1979. Le 4 novembre 1979, des étudiants révolutionnaires ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran, déclarant qu'elle était un nid d'espions et de comploteurs contre l'Iran. 42 diplomates iraniens y ont été retenus pendant 444 jours. Depuis, Téhéran et Washington n'ont pas de relations diplomatiques. Contrairement à tout ce qu'on raconte en Occident au sujet de l'occupation de l'ambassade des États-Unis à Téhéran le 4 novembre 1979, la crise politique et diplomatique entre les États-Unis et la jeune révolution islamique en Iran avait commencé presque tout de suite après la victoire des révolutionnaires iraniens, bien avant la prise d'assaut du bâtiment de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, surnommé le nid d'espions. En effet, après la victoire de la révolution islamique, quand le Shah d'Iran avait été transféré aux États-Unis, apparemment pour un traitement médical, le peuple iranien redoutait une réédition du coup d'État américain de 1953. L'éventualité d'un nouveau complot américain a poussé les jeunes étudiants révolutionnaires à occuper le bâtiment de l'ambassade des États-Unis. Après l'assaut, des documents ont été découverts illustrant l'ingérence directe des États-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran. Les jeunes étudiants ont trouvé des listes d'hommes politiques en relais et de cellules d'espionnage mises en place à travers le pays. Tout cela, et il s'agit de plus de 100 volumes de documents top secret, démontrant toute l'étendue du complot ourdi par les États-Unis contre la République islamique d'Iran, est aujourd'hui exposé au musée qui a été fondé dans le bâtiment de l'ancienne ambassade des États-Unis à Téhéran. Les étudiants révolutionnaires avaient réussi à saisir des documents classifiés des services de renseignement américains qui ont été publiés par la suite en Iran. À l'époque, le fondateur de la République islamique d'Iran, le défunt Imam Khomeini, a déclaré que la prise d'une nid d'espions américains à Téhéran était la deuxième révolution du peuple iranien pour mettre fin aux ingérences des États-Unis dans les affaires intérieures du pays. Et cela après la première révolution des Iraniens pour renverser le régime du dernier Shah d'Iran. À ce propos, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré dans un discours prononcé le 3 novembre 2016 « La prise du nid d'espions américains par les jeunes révolutionnaires iraniens était une réaction naturelle et logique des Iraniens aux crimes commis par les États-Unis contre les Iraniens et aux complots qu'ils ont tramés avant et après la révolution islamique à l'encontre du peuple iranien. L'administration américaine n'a lésiné sur rien pour faire échouer la révolution islamique. Les jeunes révolutionnaires ont donc déjoué ce complot des Américains par la prise d'un nid d'espions des États-Unis à Téhéran.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder avec deux juristes spécialistes des questions internationales ce qui se passe actuellement entre le Liban et l'Arabie Saoudite, selon de suite aux déclarations du ministre libanais de l'Information qui, interrogé sur la guerre contre le Yémen, avait en fait qualifié cette guerre d'agression d'absurde, avait en fait appelé à l'arrêt de cette guerre d'agression contre le peuple yéménite, et le ministre libanais qui avait souligné que voilà, la résistance libanaise, alias Ansar Allah, est en train de se défendre, est en train de défendre, si vous voulez, le Yémen, la patrie. Suite à ces déclarations, l'Arabie Saoudite a en fait rappelé son ambassadeur en poste à Beyrouth, au Liban. Et l'Arabie Saoudite a expulsé l'ambassadeur du Liban en poste à Riyad, et ce geste anti-Liban, anti-peuple des Libanais de la part du régime de Riyad a été suivi par certains autres régimes arabes de la région qui sont totalement en fait alignés sur la politique de Riyad, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn. Pourquoi cette attitude de la part en fait du régime saoudien? Est-ce que une telle attitude de la part du régime de saoudien est dans l'intérêt, si vous voulez, de l'Arabie saoudite et de ces, si vous voulez, des régimes arabes qui seront totalement soumis à Riyad, ou bien cela va en fait se retourner contre l'Arabie saoudite et va en fait renforcer de plus en plus la résistance libanaise. Ceux qui défendent bec au ongle la résistance libanaise à l'intérieur du Liban et également en dehors des frontières libanaises. Comme je viens de vous le dire, on va en fait vous en parler avec deux juristes spécialisés des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, Maître Arnaud Devollet, des juristes français spécialistes des questions internationales. Maître Devollet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, c'est Maître Elie Atem, juriste français spécialiste des questions internationales. Maître Atem, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à mon confrère Arnaud Devollet. Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Maître Atem. On va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, Maître Atem. Comment expliquez-vous, si vous voulez, cette attitude réservée par l'Arabie saoudite à l'égard du Liban et du peuple libanais dans l'état actuel des choses, s'il vous plaît?
Eh bien, il faut être clair, je ne pense pas que cette expression qui est sortie de son contexte d'ailleurs, parce que celle du ministre actuel de l'Information, M. Georges Cordahy, soit elle-même la raison de cette situation, de ce conflit, de ce litige diplomatique entre l'Arabie saoudite et le Liban. M. Cordahy avait, avant d'être ministre, répondu à l'une des questions dans un débat avec des jeunes que la guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen est absurde. Et cette absurdité, elle a été d'ailleurs utilisée, cette expression, par pas mal de personnalités internationales, y compris le secrétaire général des Nations Unies. C'est un prétexte, si vous voulez, qui a permis à ce conflit de s'extérioriser entre l'Arabie saoudite, le Liban, on l'a vu également aussi avec d'autres pays. On a vu également ce froid et cette rupture de relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et le Qatar, entre les conflits dans les différents pays d'ailleurs du Golfe, cette ambiance malsaine donc, qui règne dans tous les pays arabes et à l'intérieur des pays arabes. Pourquoi ? Qui sont les acteurs qui sont derrière et dans quel objectif ? Car depuis la création de l'État d'Israël, Et l'émancipation des pays arabes de l'Empire ottoman, il a été créé un nouveau monde, le monde arabe, avec une organisation qui est la Ligue des pays arabes. Et il y avait quand même tous ces mouvements nationalistes qui voulaient créer comme une sorte de l'équivalent de la francophonie ou du Commonwealth, avec un monde arabe assez fort. Et tout a été fait par l'intermédiaire des ennemis, en fait, des pays arabes, pour détruire cette unité. Et on a voulu passer du monde arabe à un monde islamique, qui, on le voit aussi, vit des dissensions, des divisions, et surtout une sorte de guerre entre les chiites et les sunnites, surtout au Proche et au Moyen-Orient. Comme vous le savez, ou nous le savons très bien, c'est que malheureusement l'Arabie Saoudite est coincée, et c'est un peu le jeu de mots, par le traité de Quincy, qui permet aux États-Unis de protéger l'Arabie Saoudite et d'exercer un chantage sur le royaume saoudien en l'obligeant à acheter des armes des États-Unis. Et c'est grâce à ce chantage d'ailleurs, qu'il y a des milliards et des milliards de dollars que les Saoudiens payent d'ailleurs aux États-Unis pour les protéger. Et nous nous souvenons tous de ces déclarations de M. Donald Trump lors de sa campagne électorale, quand il était candidat la première fois aux élections présidentielles, où il a traité l'Arabie Saoudite de vache laitière. Et quand elle n'a plus de lait à donner, on lui coupe la tête. Ou bien comme cette femme laide mais très riche, avec laquelle nous sommes obligés de cohabiter jusqu'au moment où elle n'a plus d'argent. Quand elle n'a plus l'argent, on la divorce. Donc vous voyez quand même cet état d'esprit. C'est les ennemis du monde arabe et veulent sa destruction, veulent également lui extraire ses richesses, et ils font tout pour cela. Ils mettent dans la tête des Saoudiens que leur ennemi principal aujourd'hui, c'est l'Iran, ce sont les chiites qui veulent recréer Wilayat al-Faqih, et donc mettre de l'huile sur le feu, et ils sont en train de créer des tensions et des conflits dans toute cette région du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a été entraînée dans cette guerre du Yémen. Il s'est rendu compte que c'était une erreur parce que cette guerre s'enlise de plus en plus. Il y a quand même un autre facteur qui est assez important, c'est Israël qui est derrière cette guerre-là, et qui aide également l'Arabie Saoudite. Et on voit quand même, je ne raconte pas ces histoires, en 2015, on pensait que j'affabulais quand je parlais de ces relations, mais ces relations se sont avérées vraies, et nous allons vers une normalisation avec l'entité sioniste de la part de pays arabes qui sont placés avec un couteau sous la gorge, où ils sont obligés de normaliser. Vous vous souvenez par exemple du Soudan, qui une fois avait normalisé avec Israël, en moins de 72 heures, il a vu son nom retiré de la liste des pays terroristes par les États-Unis. Donc vous voyez qui est derrière cette façon de créer des tensions et des conflits dans cette région du monde. Aujourd'hui, en fait, le Liban dérange, comme vous le savez, le modèle israélien. Vous avez un modèle israélien fondé sur théorie sioniste racialiste avec un État pour les Juifs. Bon, c'est renforcé depuis la nouvelle loi, avec une jurisprudence qui permet même de faire des examens génétiques pour déterminer si les gens sont oui ou non juifs. Et d'autre part, vous avez un modèle libanais qui a été créé des siècles par des siècles, avec petit à petit, si vous voulez, lors des siècles, une évolution, avec la création d'une entité multiconfessionnelle où les différentes, ou plus de 17 communautés religieuses coexistent ensemble. Et je dirais que ces deux modèles, c'est comme deux droites parallèles. Nous respectons, en tant que Libanais, le modèle racialiste israélien, mais à condition, nous demandons aussi aux Israéliens de respecter notre modèle. Et je rappelle toujours que le Liban n'a jamais porté atteinte aux frontières de la Palestine, de l'ancienne Palestine, c'est-à-dire aujourd'hui qui sont repris par cette entité sioniste, ce qu'on appelle donc Israël. Donc, et le Liban n'a jamais agressé l'État israélien. C'est Israël qui occupait une grande partie du territoire libanais. Israël continue d'ailleurs à occuper les 452 km2. Je rappelle la fameuse phrase de Béchir Gemayel, le Liban ne cédera pas, nous voulons nos 10 452 km2. Et donc, le fait d'avoir une résistance au Liban, comme la résistance en France contre l'occupation, qui a été soutenue et a bouleversé l'ordre interne par l'ensemble des communautés libanaises, et notamment par beaucoup de chrétiens, comme l'actuel d'ailleurs ministre de l'Information, qui est soutenu d'ailleurs par le mouvement de résistance nationale Hezbollah au Liban, dérange beaucoup en fait les objectifs d'Israël. C'est la raison pour laquelle, et des États-Unis, qui a eu une campagne qui a été faite contre le Liban, contre les Libanais, contre le peuple, et en particulier contre Hezbollah, on s'attendait de voir le Hezbollah un mouvement terroriste, une milice, mais il s'est érigé progressivement en un mouvement de résistance nationale qui a attiré autour de lui une partie des musulmans sunnites, une grande partie des chrétiens maronites, orthodoxes et de toutes les confessions, une partie également donc des druzes et bien sûr une grande partie, je dirais presque la totalité de la communauté chiite aussi musulmane. Donc cela dérange, si vous voulez, ce projet qui veut absolument démontrer qu'il n'est pas possible de pouvoir coexister et de créer des modèles comme celui donc du Liban. Et c'est pour cette raison que toutes les tentatives se multiplient, y compris celle d'exercer sur l'Arabie Saoudite et la pousser à créer, si vous voulez, cette tension qui s'ajoute à la crise financière qui a créé une crise économique au Liban et qui a conduit à la situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement le pays du Cèdre.
Merci beaucoup, Maître Atem, pour cette analyse complète et pertinente. Et le modèle libanais dérange de Maître de Volet, selon Maître Atem. Et si j'ai bien suivi Maître Atem, s'agissant de cette rhétorique anti-libanaise du régime saoudien, on peut voir en fait la piste étrangère, la piste de certains acteurs étrangers, très particulièrement la piste, si vous voulez, israélienne également. Autrement dit, en fait, cette politique actuelle anti-Liban de l'Arabie saoudite s'inscrit, si vous voulez, dans cette logique si vous voulez, par Israël, par Washington, par également certains autres acteurs. Votre lecture des faits, Maître de Volet, s'il vous plaît.
Oui, je partage complètement l'analyse de mon ami Elie. Je pense que c'est tout à fait un peu à l'instar de ce qui existait à l'époque entre le Royaume-Uni et donc les anciennes colonies et subies par les États-Unis et la France. Il y avait un modèle plus inclusif et il fallait donc faire disparaître le modèle français parce qu'il représentait une alternative à une certaine vision hégémonique de la façon dont le monde devrait être organisé. En l'occurrence, pour ce qui concerne la région, nous avons côte à côte, pour le coup, deux modèles complètement différents. Un modèle basé sur la coercition et le racialisme le plus éhonté, et de l'autre, une communauté naturelle qui s'est forgée au travers des siècles et qui a fini par intégrer, bon gré, mal gré, de manière en tout cas organique et parfaitement dialectique, toute une communauté, deux communautés, qui, si elles n'étaient pas constamment sous la menace de l'antidécisionniste, auraient parfaitement rempli le potentiel de ce que les gens semblent se lamenter quand ils parlent de la Suisse du Moyen-Orient. Les Libanais, depuis toujours, sont des experts, des orfèvres du commerce, de l'inventivité. Et en cela, ce modèle ne peut pas coexister pour les Israéliens comme une alternative, parce que cela montrerait les contradictions internes qui ne manquent pas de caractériser l'entité sioniste. Maintenant, vous avez évoqué effectivement la campagne actuellement en cours qui, pour moi, au départ, a pour origine une tempête dans un verre d'eau, à savoir les déclarations du ministère de l'Information formulées avant, en tant que citoyen, sur un sujet dont tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, ce conflit est non seulement absurde, et oui, la responsabilité en incombe aux Saoudiens. Ce qu'il faut peut-être aussi comprendre, c'est que dans un contexte où l'Arabie Saoudite est en pourparlers avec l'Iran pour une forme de détente depuis plusieurs mois, déjà, on peut encore une fois s'imaginer que l'entité sioniste ne voit pas cela d'un très bon œil et qu'elle considère que, effectivement, dans ce contexte où il est question peut-être de normaliser les relations entre Riyad et Tel Aviv, bien que même MBS lui-même semble pour l'instant s'appuyer sur l'absence de l'accord de l'opinion publique saoudienne comme dernier ressort pour résister à cette pression venant de Tel Aviv. Il a quand même, malgré tout, besoin, si je puis dire, de l'appui du régime sioniste, parce que dans un contexte où les Américains, en tout cas sous Joe Biden, l'ont considéré de facto comme un paria, ils ne l'ont pas mis sur la liste des 76 personnalités, individus saoudiens faisant l'objet de sanctions, mais il ne peut plus, en tout cas en tout état de cause, venir à Washington, et il est obligé d'envoyer soit son ministère de la Défense, soit son ministre de l'Intérieur. En tout cas, lui ne peut pas venir. Et dans le contexte de cette débâcle au Yémen, Washington lui a bien fait comprendre que s'il venait à se noyer tout seul dans cet aventurisme militaire, il ne s'en porterait pas plus mal après tout. Donc on est de facto dans une situation où les seuls qui semblent le soutenir sont les Israéliens, mais dans ce contexte-là, le soutien israélien est à double tranchant, parce qu'il empêche bien sûr un rapprochement avec l'Iran, qui serait tout à fait dans l'intérêt de Riyad, si les intérêts de Riyad étaient vraiment ceux qui priment avant tout, et permettrait peut-être une sortie politique par le haut de ce conflit avec le Yémen, qui n'a absolument aucun sens. Et dans ce contexte-là, on peut penser que les remarques qui ont été dirigées à l'encontre de MBS, qui avait, semble-t-il, essayé de solliciter le soutien de l'Iran pour peut-être établir des contacts avec la résistance yéménite, et l'Iran est resté fidèle à sa position, qui est que ce sont les parties elles-mêmes qui devraient discuter d'une quelconque solution politique, mais que si MBS insistait sur une forme de peut-être entremise, il devrait se rapprocher du Hezbollah. Il n'a pas manqué, bien sûr, de provoquer une dissonance cognitive dans l'esprit de ce dernier, et qui fait que voilà, on assiste en fait à des politiques de la part de Riyad qui sont complètement contradictoires et ne participent pas dans ce contexte-là à une vision cohérente d'ensemble qui pourrait servir les intérêts de Riyad, mais qui révèle plutôt, au contraire, un régime acculé, qui n'est pas en maîtrise de son processus décisionnaire bien compris, et qui se voit être obligé de réagir à la déclaration complètement anodine d'un ministre libanais pour justifier, tambour battant, dans les 48 heures, une rupture des relations diplomatiques avec les autres pays du JCC qui lui emboîtent le pas. Et cela participe, dans ce contexte-là, là on comprend mieux, à un objectif israélien qui est de diviser le monde musulman dès le départ. Merci. Ça a toujours été effectivement la méthode. Et de recourir, ce faisant, à des méthodes de guerre hybride, tantôt en instrumentalisant par manière interposée le système juridique libanais, tantôt en essayant de créer les conditions d'une guerre civile dans ce pays, tantôt en essayant d'imposer par le biais de décrets-lois complètement extraterritoriales en nature et sanctions indirectes sur le Liban par rapport à tout ce qui pourrait porter sur des échanges avec les pays voisins. Et tantôt, on le voit maintenant, par des manœuvres diplomatiques complètement artificielles qui sont disproportionnées dans leur nature, mais qui achève, si je puis dire, essayer d'étrangler économiquement le Liban, de rendre la vie compliquée pour les Libanais qui pourraient être, merci, par exemple, beaucoup, des étudiants dans les universités des pays du Golfe, qui pourraient avoir des intérêts commerciaux ou professionnels dans ces mêmes pays, de façon à ce que, effectivement, la pression soit mise après que le Premier ministre Mikati ait résisté à cette pression initiale, essayer de s'efforcer d'étrangler le Liban de plus en plus pour parvenir à, quelque part, contrebalancer ce que Maître Atem a parfaitement bien souligné, à savoir un capital politique grandissant du Hezbollah, qui maintenant voit s'agréger autour de lui non pas juste des gens de la communauté chiite, mais aussi des gens de la communauté sunnite, des gens de la communauté, bien sûr, chrétienne, et est en train de devenir un véritable parti d'État, un acteur
Merci
incontournable.
Beaucoup.
Et ça, Riyad ne peut pas le supporter.
Maître Atem, rapidement, s'il vous plaît. Bon, maître de Veledi, voilà que le régime israélien n'est appuyé dans sa politique que par les Israéliens. Même, en fait, ce soutien du Conseil de coopération du Golfe Persique ne fait pas, en fait, de l'unanimité, si vous voulez, au sein de ce Conseil. Le Qatar et le Sultanat d'Oman ont refusé de s'aligner sur la politique de Riyad sur ce sujet. Maître Atem, rapidement, alors, cette politique du régime saoudien va se retourner contre lui, semble-t-il, n'est-ce pas?
Bah, écoutez, c'est ce que j'ai toujours dit, malheureusement, aussi pour les Saoudiens. Pourquoi ? Parce que l'objectif aussi de ce projet politique américano-israélien est de détruire toutes les entités, toutes les institutions du monde arabe et du Proche-Orient en général. Ils veulent aujourd'hui, après avoir porté atteinte par le printemps arabe aux institutions de la plupart donc des pays que nous avons vus qui ont subi ce printemps arabe, ils veulent détruire aujourd'hui les différentes monarchies des pays du Golfe. Après avoir tiré le maximum donc de ce lait, comme le président Trump l'avait dit, ils vont lui couper la tête. Et malheureusement, ça peut se retourner contre la popularité des dirigeants donc de ces pays-là et faire avoir une sorte, je dirais, de révolution interne à long terme. Et c'est pour cette raison que d'autres monarchies du Golfe qui veulent préserver leurs institutions et leurs structures ont été beaucoup plus, je dirais, mitigées à prendre une décision. On le voit aussi même les Émiratis, les Émirats arabes qui, malgré eux, donc ils sont quand même, c'est leur voisin qui est le plus fort, qui est l'Arabie Saoudite, et là aussi ils sont en train d'obtempérer en disant que nous avons simplement retiré les diplomates de Beyrouth. Mais est-ce qu'ils vont encore plus loin? On le sait très bien que les Émirats, d'ailleurs, qui avaient pris position comme l'Arabie Saoudite au début de la guerre de la Syrie, étaient les premiers à avoir rétabli leur ambassade en Syrie. Donc on a vraiment également peur de ce projet, parce que il y a des gens, des penseurs et des pays du Golfe qui sont quand même intelligents, et ils voient que effectivement les Américains et les sionistes veulent les tromper à long terme et détruire en fait leurs institutions comme ils l'ont fait avec d'autres pays. Et nous savons, l'histoire l'a très bien démontré, comment les Américains ont trahi leurs alliés.
Et il faut donner, maître Atema, ces analystes, comme vous l'avez fort bien dit, à ces pays de la région du Golfe persique. Merci infiniment d'être avec moi, maître Atem, pour cette émission. Mes vifs remerciements vont également à vous, maître Arne de Voler, d'avoir été avec moi pour cette émission Le Débat. C'est la fin de notre émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Un groupe takfiriste syrien s'attaque à la dernière poche de ses rivaux à Idlib. Hayat Tahrir al-Sham, anciennement appelé Front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, qui contrôle la province d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, mène une guerre contre le groupe takfiriste Jundallah, qu'il considère comme une organisation extrémiste qui expose l'idéologie de Daesh et abrite des terroristes que Hayat Tahrir al-Sham poursuit. Hayat Tahrir al-Sham,
qui contrôle la province d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, tente de s'emparer des dernières poches d'organisations terroristes opposées dans la région de Jabal al-Turkman, à l'est de la province de Latakia et dans la partie ouest d'Idlib. Il a lancé une opération militaire à grande échelle contre ces groupes le 25 octobre. La bataille se poursuit, a déclaré à Al Monitor un responsable militaire du Hayat Tahrir al-Sham qui a refusé de donner son nom. Depuis le 25 octobre, a-t-il déclaré, le Hayat Tahrir al-Sham a pris le contrôle de plusieurs localités dans ces régions. L'opération militaire vise principalement le groupe Jundallah, a-t-il déclaré, en plus d'autres groupes terroristes et de nouvelles recrues, dont l'ancien membre de Daesh. Nous avons trouvé des pièces de monnaie émises par le califat autoproclamé de Daesh dans les casernes militaires et les positions dont ils se sont retirés de force, a-t-il déclaré. Les takfiristes occupent des positions stratégiques et font preuve d'une forte résistance, posant des pièges et plantant des mines, a précisé la source. Mais il a ajouté, nos opérations militaires contre Jundallah et ses alliés extrémistes ont coûté la vie à nombre de leurs membres, y compris des dirigeants éminents tels que le commandant général du Jundallah, Abu Khalil Azari, son responsable de communication et plusieurs autres commandants. Alors que le Hayat Tahrir al-Sham a lancé son opération militaire dans la matinée de 25 octobre, un affrontement a été signalé avec Jundallah, dirigé par Muslim al-Shashani, qui est également présent à Jabal al-Turkman et dans la banlieue occidentale d'Idlib. Dans la soirée du 25 octobre, les deux parties sont parvenues à un accord négocié par le Parti islamique du Turkestan pour le retrait de Shishani et de son groupe de 70 membres de la région. Après le retrait, le Hayat Tahrir al-Sham a poursuivi son opération militaire contre Jundallah, qui a capturé un groupe de combattants du Hayat Tahrir al-Sham dans la région de Jabal al-Turkman et tué d'autres membres du Hayat Tahrir al-Sham lors de violents combats. Cela a incité le Hayat Tahrir al-Sham à envoyer davantage de renforts militaires le 26 octobre, resserrant l'étau et incitant plusieurs dirigeants et agents de Jundallah à envisager de fuir la région. Le même jour, le Hayat Tahrir al-Sham a arrêté certains des takfiristes qui tentaient à s'échapper, notamment Abu Moussa al-Shishani et Abu Abdallah al-Shishani en route vers la Turquie. Tariyad-Din al-Omar, chef du bureau des médias du Hayat Tahrir al-Sham, a déclaré à Al Monitor que la campagne est dirigée contre Jundallah et les groupes takfiristes qui lui sont alliés et qui sont impliqués dans des incidents de sécurité et des vols, tuant des gens et prenant leur argent. Le groupe Jundallah a été fondé par Abu Fatima al-Turki en 2015 à Idlib. Al-Turki a été tué il y a près de 3 ans et a été remplacé par Abu Hanif al-Azari et son adjoint Abu Jaber al-Azari. Abu al-Fida al-Jazairi a pris le poste de législateur général du groupe et Abu Abdelrahman al-Azari était responsable de la communication. Le commandant militaire général du groupe est Abu Khalil al-Azari. Il comprend quelques agents syriens, en plus de diverses nationalités étrangères. Le Hayat Tahrir al-Sham considère Jundallah comme une extension de Daesh, étant donné qu'il désigne également les gens comme des infidèles, en particulier ceux qui s'y opposent. Le Hayat Tahrir al-Sham accuse également le groupe d'abriter des cellules de Daesh qui mènent des attentats à la bombe à Idlib. En outre, Jundallah est principalement présent à Jabal al-Turkman et dans la campagne de Jisr al-Shugur à l'ouest d'Idlib, une zone considérée comme un refuge pour les dirigeants et les membres d'Ouras al-Din, affiliés à Al-Qaïda, qui sont traqués par le Hayat Tahrir al-Sham. Si le Hayat Tahrir al-Sham parvenait à éliminer complètement Jundallah et à se débarrasser de la dernière enclave des takfiristes, cela reviendrait aussi à priver Daesh et Ouras al-Din de leur bastion. Le 27 octobre, la place Bab al-Hawa, au nord d'Idlib, a été le théâtre d'un sit-in contre la répression militaire du Hayat Tahrir al-Sham contre les organisations armées. Les manifestants ont scandé des slogans appelant à faire tomber le leader du Hayat Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Gulani, et ont exigé de ne pas nuire aux organisations qui incluent des immigrés dans leur rang. Un communiqué du gouverneur de la province afghane de Nangarhar fait savoir qu'une soixantaine de takfiristes ont déposé leurs armes et ont dit se repentir de leurs activités, après quoi ils ont été graciés. Au moins 65 terroristes de Daesh se sont rendus aux autorités à Nangarhar, a fait savoir dans un communiqué le gouverneur de cette province de l'est de l'Afghanistan. Selon le chef de la direction provinciale, les terroristes ont été graciés, mais s'ils perturbent l'ordre public, ils seront frappés de sévères mesures juridiques. Les talibans, qui sont entrés dans Kaboul le 15 août, ont formé un gouvernement provisoire début septembre. Ce gouvernement est dirigé par Mohammad Hassan Akhund, qui a été ministre des Affaires étrangères sous le premier règne des talibans et dont le nom figure sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les talibans ont déclaré leur ferme détermination à lutter contre les groupes takfiristes implantés en Afghanistan. En effet, Daesh a établi en 2015 sa tête de pont dans le district montagneux d'Achin, dans la province orientale de Nangarhar. Mais fin 2019, il avait été pratiquement éliminé dans le pays. Ils n'ont pas leur place ici. Nous traquons leurs combattants qui se cachent, avait indiqué en septembre à Libération le Mollah Mohammad Neda, gouverneur de la province de Nangarhar. Selon lui, entre 70 et 80 membres de Daesh avaient été arrêtés en 2 semaines. Plusieurs attentats revendiqués par Daesh se sont produits dernièrement en Afghanistan. Un attentat suicide perpétré le 8 octobre contre une mosquée à Kunduz, au nord-est de l'Afghanistan, avait fait environ 150 morts et autant de blessés. L'attaque a été revendiquée à peine quelques heures plus tard dans un communiqué publié sur les chaînes Telegram de Daesh. 4 jours plus tôt, le groupe terroriste a revendiqué l'attentat à la bombe lancé la veille contre une mosquée de Kaboul qui a fait au moins 5 morts après que les talibans ont affirmé avoir neutralisé une cellule dormante de Daesh dans la capitale afghane.